Vous écoutez Quoi de Meuf ? Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture toutes les trois semaines. Je suis Mélanie Wanga.
Je suis Clémentine Gallo. On est toutes les deux journalistes.
Cette émission, c'est une conversation à deux dans laquelle on discute aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna.
C'est parti.
Cette semaine, on va parler du mouvement Body Positive.
Comment ça va cette semaine ?
Bah écoute, j'espère que ça s'entend pas trop, mais je suis un petit peu malade. Je perds un peu ma voix, malheureusement. Mais je suis quand même contente d'être là. Je suis quand même contente d'être là pour notre deuxième épisode. Donc voilà. Et je voulais aussi parler d'un événement qui a eu lieu, auquel j'ai participé. C'est une conférence sur les podcasts féministes animée par Arte Radio. Mmh. Et donc, Quoi de Meuf était là ? Quoi de Meuf représente.
Ouais, represent.
Voilà, donc il y avait Lorraine et la poudre, il y avait Victoire Tuaillon, des couilles sur la table, Géraldine Saratia, dans le genre 2 sur Nova, les filles d'Atouba. Enfin, c'était vraiment... Moi, ça m'a vraiment plu de pouvoir parler à cœur ouvert de féminisme sans tu vois, faire les présentations d'abord. Faire oui, alors, je suis féministe, mais en fait, le féminisme, c'est pas la misandrie, tu vois.
C'est, on aime bien quand même les hommes.
Voilà,
tu vois. C'était sans préambule, quoi.
Voilà, exactement.
Féministe, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes.
On a pu tout de suite plonger dans le vif du sujet et parler des podcasts et ça m'a vraiment encouragée et motivée pour la suite. Je me dis, c'est bien, tu vois, on sent qu'il y a un truc qui est en train de se passer, c'est cool. Et toi ?
Alors moi aussi, je suis hyper motivée à cause des réactions en fait, qu'il y a eu au hashtag MeToo et à l'affaire Weinstein. En fait, jamais j'aurais pensé que ça prendrait autant d'ampleur parce que je suis de nature très pessimiste, désolée. Et aussi parce qu'en fait, en tant que femme, on est conditionnée à penser que rien ne va jamais changer et qu'on ne peut rien y faire.
Ouais, et puis il y a aussi beaucoup de backlash. Enfin, quand il y a des grands mouvements féministes qui poussent à des évolutions de société, derrière, t'as la contre-réaction, le retour de bâton.
Ouais, c'est ça. Donc on l'attend, on le sent venir. Et voilà, et donc depuis quelques semaines, it's raining men.
Hallelujah.
Voilà, mais surtout en fait ce qu'il faut maintenant c'est que les mecs prennent conscience que les agressions sexuelles ce n'est pas comme de se faire voler son portefeuille, parce que ça arrive à tout le monde, c'est pas de chance, voilà. Mais en fait cette somme d'agression est genrée, c'est un système qui s'appelle le patriarcat, it's real, ça existe. Et donc voilà, il y a un papier en fait... de New York Magazine, qui compare les récits d'agression à des histoires de fantômes. C'est-à-dire que la personne concernée y croit, mais personne d'autre n'y croit. Mmh. Donc, voilà.
Et ce qui est bizarre, c'est que quand tu dis « je me suis fait voler mon portefeuille », enfin, les gens vont pas naturellement te croire. Tu vois.
Oui, alors, et personne dit «
je me suis fait agresser sexuellement ».
C'est ta faute.
Oui, voilà, tu vois.
Ton portefeuille était trop voyant.
C'est vraiment un crime à part, en fait, le viol et les agressions sexuelles. C'est vraiment, enfin, même dans la façon dont c'est reçu par les gens, quand tu le dis... Enfin, c'est hyper bizarre. Quoi. Allez, c'est parti pour le thème du jour. On va parler du mouvement Body Positive.
Alors, c'est un peu le terme de 2017. On en a tout entendu parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est, pourquoi c'est important pour le féminisme et à quoi ça sert, hormis à nous refourguer des trucs.
Ouais. D'après mes recherches, le mouvement Body Positive, c'est surtout venu des États-Unis, tel qu'on l'entend maintenant. Même en français, on n'a pas vraiment de terme de traduction.
C'est pas traduit, ouais.
Mais en fait, c'est plus ancien parce que je dirais que c'est un peu une branche du courant fat activism, qui date des années 60, qui était vraiment un courant très politique. Alors, du coup... Je pense que c'est en réaction au fait que les femmes, elles sont continuellement ramenées par la société à leur corps. Le corps, la beauté, c'est la valeur principale d'une femme, si on écoute la société et le patriarcat. C'est quelque chose à chérir, à faire fructifier. Et en gros, la société te dit que s'il y a un problème avec ton corps, genre si tu te démarques en fait, de la norme mince, blanche et valide, c'est que tu es cassée quelque part et que tu dois y remédier. Donc, effectivement, en achetant des produits qui vont te réparer quelque part. Donc pour faire une petite histoire du mouvement body positive, ça a commencé à la fin des années 2000 et ça s'est prolongé dans les années 2010, notamment sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, qui est le réseau social de choix, avec les hashtags qui ont vraiment lancé quelque chose. Le hashtag healthy qui a lancé beaucoup de photos de bouffe et de corps hyper idéalisés, hyper filtrés.
Mmh, c'est le réseau social de la femme parfaite.
Ouais, c'est un peu déprimant. Moi, j'ai un peu de mal hein, parfois avec Instagram. Hein. Et du coup... En réaction à ça, il y a eu un courant plus inclusif qui s'est créé, donc Fat Positive et Body Positive, avec des filles qui postaient des photos de leur bourrelet et peut-être d'assiettes moins appétissantes. du coup, peut-être que c'est au final une autre sorte de marketing, c'est plus positif, mais peut-être que malgré tout, c'est une autre norme. Donc on ne sait pas, mais en tout cas, il y a vraiment ce mouvement qui s'est créé en réaction, quoi.
Et donc, si on veut le lier à des courants plus anciens de la philosophie, ça peut être une actualisation du bon vieil amour de soi de Rousseau, c'est-à-dire que voilà, s'aimer, c'est bon, sain et naturel. Mais en fait, surtout ce que dit le courant body positive, en tout cas tel qu'il a été pensé aux États-Unis, c'est que c'est un mouvement politique, donc il y a des revendications militantes et une volonté sociale de changer la manière dont les corps ont ou non le droit d'exister et sont ou non représentés. Donc, des corps marginalisés ou non normés, tu le disais, gros, racisés, LGBT, handicapés.
Donc surtout représentés dans les médias, dans la presse
Oui, dans la culture et ben, dans la ville aussi. Mmh. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça nous a fait beaucoup nous interroger sur notre rapport à notre corps, en fait, dans une société qui valorise la maigreur et la blancheur, tu le disais tout à l'heure, comme une forme de réussite sociale et souvent comme un signe de bonne santé, alors que c'est pas forcément le cas. On peut être blanc, maigre et en très mauvaise santé. Voilà, moi je me sens pas toujours très légitime à en parler, mais je pense que c'est essentiel de relayer cette parole-là.
Ouais, bah après c'est vrai que en préparant l'émission, je me suis posé la question parce que ni toi ni moi, nous sommes grosses. Et en même temps, pour moi, le courant body positive, il touche à d'autres choses. Il touche aussi effectivement au corps gros et à la grossophobie. Mais aussi, ça concerne la blancheur. Et je pense que c'est quelque chose d'important et que ça se replace du coup dans l'intersectionnalité, quoi. Mmh. Parce que la blancheur, c'est le modèle prédominant en fait dans la pub et dans les médias. Il suffit d'ouvrir un magazine féminin pour voir des meufs blanches partout, tout le temps. C'est la norme en fait. Mmh. Et du coup, les corps noirs, asiatiques, autres, les corps handicapés, comme tu disais, ils sont jamais montrés comme des corps beaux. Mmh. Ils sont toujours montrés comme...
Ils sont tolérés, quoi.
Voilà, et puis l'objectif final, c'est d'arriver au corps blanc, quoi. Mmh. Et du coup, les réseaux sociaux, notamment Instagram, aident à rendre visibles ces corps-là et à les sublimer et à montrer qu'ils n'ont en fait pas besoin de se rapprocher de cette norme pour être valable et pour être beau. Donc ça, c'est quand même super cool, je trouve. Et c'est une subversion des modèles existants. Et du coup, on voit maintenant que la presse court derrière ça. Avec Teen Vogue et même les magazines féminins. Tu vois, maintenant, ils essayent un peu de faire leur autocritique en faisant soit des séries mode, soit des séries beauté, en mettant des corps. J'ai pas encore vu beaucoup de magazines féminins de parler de corps non valides, tu vois, personnes handicapées et tout. Mais je pense que la presse est en train de sentir qu'ils peuvent plus se reposer sur leur laurier et mettre des mannequins blancs de 16 ans partout, quoi.
Oui, et la pub aussi. Enfin, ça reste très marginal, mais...
Ouais, puis ça reste encore, je pense, dans la démarche, tu sais, Benetton, quoi.
Oui, c'est
genre,
ça.
Hey, regardez, on a un noir.
C'est bon, on a un ami noir.
Ouais, c'est un peu ça, quoi. Puis en plus, je pense pas que la solution, on puisse la trouver entièrement dans la pub. Parce que la pub, ça repose quand même toujours sur le fait de dire aux femmes, vous êtes pas assez belles, vous êtes pas assez bien. Et la seule solution pour que ça aille mieux, c'est d'acheter, quoi. Et je pense que l'une des pistes, et comme tu disais, qui est très politique, c'est de réaffirmer qu'on est bien comme on est, en fait. Et qu'on n'a pas besoin d'une crème d'un défrisant.
D'un gel pour le cul.
Tu vois, d'un défrisant. Notamment, je pense aux femmes noires qui se défrisent les cheveux beaucoup. Mmh. Ou à nos mères qui se décolorait la peau. On n'a pas besoin de ça. En fait, la norme blanche n'est pas l'idéal, quoi. Je pense que le mouvement, en tout cas body positive, tend vraiment beaucoup vers ça, quoi.
Et en parlant de publicité, le livre de Mona Chollet qui s'appelle Beauté fatale et qu'on conseille...
Trop bien.
Ouais, à tout le monde. Mona, si tu nous écoutes. Parle justement de l'industrie de la mode et de la beauté et aussi de la culture des régimes qui fonctionne en fait de telle sorte que les femmes détestent forcément leur corps puisque c'est la base du capitalisme et que comme ça on continue à consommer en fait. Moins on s'aime, plus on achète de trucs qui nous servent à rien. Et donc fatalement, tout le monde a un rapport compliqué à son corps, enfin plus ou moins, et un rapport névrotique à la nourriture. Donc du coup ça va jamais puisque les idéaux qu'on nous vend sont impossibles à atteindre. Voilà, donc c'est pour ça que tout le monde a besoin de body positive dans sa vie.
Ouais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est quand elle parle de l'anorexie, en fait des troubles alimentaires, en disant que les médecins, enfin les gens s'étonnent que « Oh là là, c'est bizarre, ça touche 90% de femmes, ces maladies », et que en fait, c'est vraiment des maladies créées et alimentées, sans jeu de mots, par le système, quoi. Et que c'est des maladies genrées, parce que ça découle de ces modèles toxiques qu'on nous propose tout le temps, genre soit mince. Et effectivement, je reviens sur ce que je disais au début, mais moi, c'est ça qui me frappe, c'est... Le mouvement body positive s'est développé en essayant d'apporter quelque chose de positif dans une équation qui, à la base, pour moi, est déjà toxique. Quoi. Dire que la valeur principale d'une femme, c'est sa beauté et son corps, c'est compliqué, tu vois. Quand déjà, c'est ça à la base. Alors, effectivement, tu peux avoir des mouvements qui te disent « Oui, mais c'est pas grave si tu ressembles pas tout à fait à la norme et tout. » Mais en fait, je pense que le vrai truc révolutionnaire, ce serait de dire bah, « En fait, on s'en fout quoi, de à quoi on ressemble. » Et je pense qu'il y a des
no body.
Ouais, c'est ça. Ou le body neutrality aussi.
Sinon, il y a aussi, comme autre fléau, la grossophobie. Donc, c'est le fait de traiter comme de la merde les personnes grosses en pensant que peut-être ça va les pousser à maigrir. Il y a pas mal de femmes qui ont écrit là-dessus.
Ouais. Il y a notamment Roxane Gay, dont on parle beaucoup dans notre newsletter. qui a écrit beaucoup d'articles et qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Hunger. Et du coup, dans ce livre, elle raconte qu'elle ne s'excuse pas d'être grosse et qu'elle n'essaie pas de maigrir et qu'elle a ce qu'on appelle médicalement, le terme médical, c'est l'obésité morbide. Et qu'elle raconte, par exemple, ses voyages en avion où elle doit prendre 2 sièges et comment les gens la traitent. Parce qu'en fait, c'est ça, la grossophobie, c'est le fait que les gens se sentent autorisés à parler de comment tu t'alimentes, comment tu t'habilles.
En fait, elle a une carte gold, genre grand voyageur, et elle raconte qu'elle est tout le temps la seule femme noire et grosse dans la queue où il n'y a que des gens riches, en fait. Et on lui fait tout le temps sentir qu'elle n'a pas du tout sa place là-dedans.
Ouais, et du coup, c'est là aussi on voit une autre démarcation sur le fait que ce soit une femme noire, quoi. Il y a aussi Your Fat Friend, qui est un compte Medium, avec des collections d'articles écrits par une fille qui donc, est sous pseudo, Your Fat Friend. C'est le point de vue d'une féministe qui explique sans détour toutes les concessions et tout ce qu'elle fait en fait pour s'adapter, même la petite gymnastique mentale qu'elle fait chaque jour pour ne pas déranger les gens minces.
Et pour avoir le droit d'exister, en fait.
Tu vois, c'est genre, tu te serres un petit peu, malgré tout, ces gens-là sont imbuvables et ça roge le droit de remettre en question, comme je disais, l'alimentation, la santé, ce qu'on appelle le faux concern. Oh là là, mais c'est pas bon pour la santé que tu sois grosse comme ça. Comme si la personne, en fait, elle se soucie vraiment de la santé de l'autre, quoi.
Mais mêle-toi de ton cul.
Ouais, dire que les gros glorifient l'obésité, tu vois, c'est alors que... Enfin, en tout cas, les personnes qui pratiquent le body positive sur Internet disent elles-mêmes qu'elles glorifient surtout l'amour de soi, quoi. Le self-love, le fait de s'aimer, quoi, tel qu'on est.
Et ben, oui, t'as des gens qui vont arriver. Radical self-love.
Exactement, et t'as des gens qui vont arriver qui vont dire mais non, tu glorifies le fait d'être gros, en fait, et c'est mal, parce que quand on est gros, après, on.
Propagande
on
de gros.
Ouais, tu vois. Et en fait, la grossophobie, c'est juste empêcher les gens gros de vivre, quoi. Et en plus. Ça développe une espèce de... Enfin, ce qu'on appelle l'hypervigilance, parce que la grossophobie, elle est partout, quoi. Elle est dans la rue quand tu marches, quand tu te prends des réflexions, quand tu manges devant quelqu'un, au travail, chez le médecin. On parle beaucoup de la grossophobie médicale, où même quand tu vas chez le dentiste ou chez l'ophtalmo, tu te prends des remarques, genre « Ah bah oui, mais ça, c'est parce que vous êtes grosse hein, que ça va pas, hein !»
C'est pour ça que vous avez des caries.
Voilà, ou même, on avait mis un lien dans la newsletter sur les violences gynécologiques, avec des femmes grosses qui parlaient de ce qu'on leur dit, quoi. On leur dit « Ah ben non, vous pouvez pas avoir d'enfant. Ah ben oui, on peut pas faire ça, je vois rien, là, vous êtes trop grosse. » C'est des violences qui, même, en fait, dans le milieu professionnel arrivent, quoi.
Ouais.
Et donc tu te dis...
C'est vraiment banalisé, quoi.
Ouais, complètement, quoi. Et il y a aussi, on peut aussi citer Lindy West, qui est une journaliste américaine qui a beaucoup écrit sur le fait d'être grosse. Moi, je me rappelle surtout de son article qu'elle a écrit, que j'ai trouvé génial, quand elle s'est mariée. Mmh. Et qu'elle racontait que quand elle était plus jeune, elle se disait que quand elle allait se marier, elle serait mince et qu'elle serait heureuse, du coup, parce qu'elle serait mariée et mince à ce moment-là. Mais non, elle s'est mariée en étant grosse. Et elle a été très heureuse en étant grosse.
Et sa vie, c'est de la balle.
Ouais. Et puis, elle a écrit un livre qui s'appelle Shrill. Notes from a Loud Woman. Et ouais, moi j'adore Lindy West.
Et en France, on peut citer aussi le collectif Gras Politique, qui lutte de son côté contre la grossophobie et qui organise souvent à Paris des cours de yoga, donc de fat yoga, qui sont ouverts uniquement aux femmes et qui s'adaptent en fait à toutes les morphologies. Et moi j'y suis allée, donc c'est testé et approuvé par moi.
C'est quoi la différence avec le cours de yoga normal?
Bah en fait, déjà, il n'y a pas d'hommes.
Ouais.
Et ensuite, comme je disais, comme ça s'adapte à tous les corps, en fait, la prof vient te voir si tu ne peux pas faire certaines positions à cause de tes cuisses ou si tu as certains, tu vois, des problèmes de dos ou si tes seins sont très gros, donc tu ne peux aussi pas faire certaines postures.
Et elle donc, adapte voilà, les postures s'adapte. En fonction de ta morphologie.
Ouais.
Putain, c'est cool.
Ouais, c'est trop bien. Et du coup, elle ne te fait pas sentir mal si tu ne peux pas faire certaines postures. Voilà. Tout va bien.
Mmh.
On ne dit pas que le body positive est la solution à tous nos problèmes. Il y a même pas mal de critiques en fait, de voix critiques qui se sont élevées ces dernières années.
Ouais. Notamment l'une de ces voix, c'est celle de la blogueuse afroféministe Kiemis, qui a expliqué d'ailleurs dans un article pour BuzzFeed que dans un premier temps, le mouvement body positive l'a aidée avant de l'aliéner, parce que bah en fait, le mouvement, comme tous les mouvements qui essayent de changer la société, veulent quand même être acceptés par la société. Et du coup, ont tendance à se rapprocher de la norme, encore une fois. Et en fait, le mouvement et le hashtag body positive a commencé à montrer beaucoup de corps blancs, de filles minces, ou alors de grosses, mais qui ne sont pas trop grosses et qui sont photogéniques. Et du coup, Kiemis s'est tournée vers le fat activism, qui est plus politique, qui encourage à l'action et qui contient toute une littérature. Alors, j'ai une petite citation. Le fat activism, c'est une volonté collective de dénoncer la grossophobie dans la société et d'affirmer que les personnes grosses ont le droit au respect, comme tout le monde.
Oui, on ne demande plus la permission d'exister, quoi. On l'impose, en fait.
Voilà, exactement.
Et sinon, évidemment, l'industrie de la mode et de la beauté se sont empressées de récupérer ce mouvement. Donc on peut citer les culottes de règles de la marque Thinks, la lingerie qui est faite pour toutes les tailles et toutes les couleurs de peau.
Ah oui, la couleur nude, mais pour les femmes noires et tout.
C'est ça, ouais. Qui est en fait blanche.
Ouais.
Donc il y a les marques comme Lonely ou Neon Moon. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est surtout, en tout cas pour les marques vertueuses, elles sont surtout présentes aux États-Unis, il y en a assez peu en France.
Alors je sais que Louboutin, à un moment, il avait sorti des chaussures nudes, parce que pareil, il avait des chaussures nudes, mais c'était nude blanc.
Ouais.
Quoi. Et je crois qu'il avait sorti des chaussures pour tout le monde. Mais bon, tout le monde n'a pas de quoi se payer des Louboutins.
Oui, c'est ça. En fait, si c'est inaccessible, c'est pas la peine. Et surtout, c'est vrai que le courant body positive a été pas mal récupéré par le commerce de manière très opportuniste. Donc si vous nous écoutez et que vous êtes une entreprise soi-disant inclusive, faites attention à ce que vos habits ne se limitent pas à la taille XL. Merci, message de service. Quoi de meuf à votre écoute ?
Alors pour cette émission, on a eu la chance de recueillir des témoignages d'auditrices et de lectrices sur le body positive.
D'abord, on a recueilli le témoignage d'Elsa qui nous a dit que le courant body positive l'avait pas mal aidée, dans le sens où ça lui avait permis d'entendre un autre son de cloche. Parce qu'en fait, sur Internet, la grossophobie est un peu partout. Et pour elle, le plus dur, c'est souvent d'être assimilée à quelqu'un de malade. Et elle dit que c'est extrêmement fréquent et très blessant. Et donc, le body positive agit en fait à rebrousse-poil de cette idée-là. Elle dit aussi que ce qui l'a aidée, c'était les grandes tirades de Dana Falsetti, qui est une yogi de grande taille. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est que ça peut avoir un effet pervers, parce qu'elle a lu beaucoup d'insultes sur les posts et en dessous des photos de personnes pratiquant le body positive, et elle trouve que ça peut être retraumatisant pour certaines personnes.
Ouais, parce qu'en gros, t'as toujours quelqu'un pour arriver dans les commentaires et dire « tu devrais faire un régime et compagnie », quoi.
Ouais, c'est ça. Et moi, c'est vrai que j'ai pas mal écrit sur le sujet. Et je lis rarement les commentaires pour ma propre santé mentale. Et quand je l'ai fait...
En règle générale, il ne faut pas lire les commentaires
oui,
sur Internet. Quoi.
Et quand je l'ai fait, c'était... on s'en fout de cette grosse... elle a qu'à maigrir, elle nous fait chier, qu'elle ferme sa gueule. Voilà.
Sympa.
Sinon, on a aussi recueilli le témoignage de Laetitia, qui nous a raconté quel effet ça avait eu sur sa vie et son quotidien.
Le body posi, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie quand j'ai découvert ça sur les réseaux sociaux il y a quelques dizaines de mois maintenant, on va dire. Parce que j'ai grandi dans un milieu où on me disait tout le temps que les femmes devaient être minces pour être belles, que ce soit par mes parents, que ce soit par la publicité, les magazines. Et en découvrant toutes ces femmes que je trouvais si belles malgré leurs kilos en trop, comme on a encore tendance à dire, même si c'est pas forcément des kilos en trop, ça m'a permis de mieux m'accepter, d'accepter à nouveau d'être prise en photo, d'accepter le fait que je me plaisais comme j'étais, et d'arrêter tout ce qui était vraiment régime à la con, qui me rendait malheureuse. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie et qui m'a permis d'être mieux dans ma peau.
On peut aussi parler en France d'une jeune coach qui s'appelle Aurore Kennis, qui a 31 ans, et qui a déposé la marque Body Positive, et qui a créé le site bodypositive.fr. Elle est en train de lancer le site. Donc c'est une plateforme de coaching et d'accompagnement pour aider les femmes dans leur rapport au corps. Donc elle nous a parlé de son expérience personnelle, puisqu'elle a longtemps été considérée en surpoids. Et elle dit que si on ne fait jamais complètement fi du regard des autres, on peut quand même devenir pote avec son corps. Body buddy. On peut l'écouter.
J'ai longtemps souffert, très longtemps souffert en fait, de mon apparence, de mon surpoids, des difficultés que j'ai pu rencontrer par le passé du fait de mes origines. Et j'avais envie, au-delà du métier bien sûr que je fais aujourd'hui, d'accompagner les gens de par cette histoire que j'ai et cette compréhension que je peux avoir de la non-acceptation de soi. Et la notion de body positive, on l'appelle finalement comme on veut, mais pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment la notion de commencer par s'accepter tel qu'on est, et c'est franchement un gros job, et puis ensuite de s'aimer et d'afficher ça à la face du monde, sans que ce soit forcément de la rébellion, mais plutôt quelque chose de parfaitement assumé, une forme d'autonomie, de l'amour de soi, même si évidemment on est humain et on ne fait pas fi du regard des autres. Et même évidemment de notre propre regard qui est quand même vachement souvent encore plus dur que le regard des autres.
Alors on a quelques conseils body pose pour vous, chers auditeurs et chères auditrices.
Par exemple, ne pas commenter l'apparence des autres, sauf pour faire un compliment.
Ne pas féliciter quelqu'un qui a maigri, il ou elle va peut-être mal.
Ne pas pathologiser les personnes de grande taille ou considérées comme grosses, car ce n'est pas une maladie.
Se battre pour que tous les corps aient le droit de citer dans la rue et partout et dans les représentations, les médias.
On peut aussi vous recommander de suivre les comptes Instagram de Danielle Brooks, qui est l'actrice qui joue Tasty dans la série Orange is the New Black.
Et aussi celui de Gaëlle Prudencio, blogueuse et entrepreneuse française.
Il y a plusieurs podcasts à écouter sur le sujet, celui de Bustle qui s'appelle Le Bodcast et également She's All Fat.
Vous pouvez retrouver toutes les références dont on parle, tous les articles en fait qu'on a lus et qui nous ont bien aidés sur le sujet, sur notre compte Twitter et dans la description de l'épisode, dont un article écrit par Clémentine elle-même,
oui,
pour Libération. Un article qui s'appelle « Quand l'amour propre prend corps ».
Le moment pop culture.
Alors évidemment, on a nos icônes, ouais, dans le mouvement body positive. On va vous faire un petit panthéon très rapide. Moi, j'adore la chanson trop cool de Sir Mix-a-Lot, Baby Got Back.
I like big butts and I cannot lie.
Voilà. Où il explique qu'il aime les grosses fesses. I like big
butts and I cannot lie. You other brothers... Et moi, je suis fan de la prof de yoga américaine Jessamine Stanley, qui est grosse, afro et lesbienne, et qui a publié un livre qui s'appelle Everybody Yoga et qu'on peut suivre sur son compte Instagram et sur des vidéos YouTube.
I wish that I could have seen, like when I was 12 and I was just like feeling terrible every single day, I wish that I could have seen a woman who looked like me.
Il y a aussi l'actrice noire américaine Gabourey Sidibé de Precious et d'American Horror Story qui raconte bien comment en fait elle envoie balader les gens qui lui parlent de son physique et qu'en fait pour elle c'est une source de force quoi.
The thing about my body is that it's mine. The only opinion that mattered was mine. And that's just the way I kept it. Like, I don't tell people when I change my hair either. I just do it.
Alors attention, ça ne veut pas dire que Hollywood a tout compris au body positive. Ce serait même plutôt l'inverse. On vous a mis quelques articles sur le sujet dans la description si ça vous intéresse.
Il y a aussi la chanteuse Miss Eves qui a fait l'été dernier un clip pour sa chanson Thunder Size, où elle raconte qu'elle est fière d'avoir des grosses cuisses qui frottent. Et avec ses paroles, gros cul, ce pantalon est serré, je suis coincée, il ne monte qu'à mi-hauteur, mom jeans toute la journée, pourquoi t'es fâchée ?
You're mad?
Les recommandations
culturelles.
De quoi de neuf?
Alors cette semaine, moi je voulais parler du livre Se défendre d'Elsa Dorlin, qui est notre idole à toutes les deux.
Yeah, moi c'était ma prof.
Donc ouais, c'est une universitaire, professeure de philosophie politique et sociale au département de sciences politiques de l'université de Paris 8. Attention, ça rigole pas. Non mais moi je l'aime beaucoup parce qu'elle a écrit en fait des ouvrages que je trouve indispensable, donc sexe, genre et sexualité, introduction à la théorie féministe, et elle a mené, elle a dirigé le recueil Black Feminism, donc c'est un recueil de textes d'afroféministes, et ça a changé ma vie quand j'ai découvert ce bouquin.
Merci.
Donc le bouquin Se défendre parle de comment les minorités se sont protégées à travers l'histoire, sachant qu'on leur opposait, en fait on leur enlevait les moyens de se défendre, donc les minorités, je pense aux femmes, on disait qu'elles n'avaient pas le droit de prendre les armes, et aussi les minorités raciales, les esclaves, les noirs n'avaient pas le droit, en fait, même dans l'Empire colonial français, de se défendre, quoi, tout simplement. Et on leur opposait des arguments naturalistes en disant « Mais non, mais vous n'avez pas besoin de vous défendre. Les hommes blancs sont là pour vous protéger. Ne vous inquiétez pas. » Et donc, le bouquin, c'est un ton universitaire. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas dire que c'est facile à lire. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça passionnant. Quoi. Parce que c'est vraiment, tu dis « Ah, mais comment reprendre le pouvoir ?» Et le pouvoir passe par les armes. Révolution ! Voilà.
Père Noël, si tu nous écoutes. Ou Mère Noël, même.
Et toi ?
Ça a l'air super. Moi, je voudrais parler de la série The Deuce. Je vous prononce très
Deuce.
Bien. The Deuce, qui vient de finir sa première saison sur HBO.
Hey, baby brother. You still betting? Winning.
See how long that lasts.
Warning, c'est une série concoctée par des mecs, donc David Simon qui a fait The Wire et Trémé, et aussi l'écrivain George Pelecanos. Et on y retrouve Maggie Gyllenhaal et James Franco en très grande forme. Et ça parle de la prostitution et des débuts de l'industrie du porno à New York dans les années 70.
Est-ce que c'est genre plein de meufs à poil partout et tout?
Eh ben justement non, en fait, heureusement, parce que c'est vrai que quand le projet a été annoncé, on a eu très peur d'une série male gaze, donc sur le regard masculin, faite par des mecs en train de se rincer l'œil. Et c'est vrai que c'est souvent le défaut des séries historiques. Les créateurs se défaussent souvent avec le même argument en disant « Ah mais à l'époque c'était comme ça
bah, !» Il y avait des dragons au Moyen-Âge.
C'est ça, c'est ce que disent les créateurs de Game of Thrones à chaque fois, c'est horripilant. Sauf qu'en fait, on écrit aujourd'hui et pas il y a 30 ans. Et c'est ça qui est très réussi dans la série. Donc non seulement elle n'est pas nostalgique de cette époque et elle ne dit pas « Ah oh, c'était trop glamour d'être
quand les hommes étaient des vrais hommes. »
Ouais c'est ça, quand les hommes étaient des pimps. Et surtout David Simon a intégré en fait toutes les critiques féministe et il les a entendus et il se place résolument en 2017. En fait, il explique comment le porno va de pair avec le capitalisme en exploitant les corps et lui, justement, il veut pas que sa série exploite ses actrices de la même manière.
Il est trop bien.
Je l'aime.
Tu suis son compte Twitter ? À chaque fois qu'il y a des trucs racistes, non, et sexistes et tout, il défonce tout le monde.
Je m'abonne à la minute.
Allô ?
Allô ?
T'as une question ?
Quoi de meuf vous écoute ? Alors, on a reçu notre première lettre d'auditrice, donc c'est Dominique qui nous a écrit dans un moment de désespoir. Elle nous dit « Je suis une féministe qui écoute du rap et ce n'est pas évident. J'adore ce courant musical et je trouve beaucoup de pépites et de textes magnifiques. Mais j'y trouve aussi malheureusement beaucoup, vraiment beaucoup de textes affreusement misogynes, sexistes et ça me fait carrément flipper pour les nouvelles générations. J'ai une fille de 10 ans et quand je vois qu'elle écoute Niska et qu'elle connaît par cœur le refrain de Réseau, ça me fait mal. Qu'en pensez-vous ? Alors ?
Ah bah je prends la main et je vais répondre. Alors, aimer des œuvres problématiques, que ce soit musical ou au cinéma ou des séries, c'est un peu la croix des féministes. Hein. Parce que le rap, le hip-hop, la culture hip-hop dénonce souvent une violence de classe, une violence de race. en utilisant la violence des mots. Mais les rappeurs, dans leur ensemble, ils n'ont pas encore fait vraiment, je pense, le taf de déconstruire l'oppression sexiste. Mmh. Et du coup, en fait, ils se vengent un peu sur les femmes, j'ai cette impression. Moi, je ne suis pas une professionnelle du hip-hop, hein, mais on peut quand même citer des rappeuses féministes françaises et mondiales. En France, on a Chilla, qui a écrit notamment le morceau « Sale chienne » dans lequel elle explique que malgré le fait qu'elle donne tout au hip-hop et que ce soit sa passion et qu'elle écrive ses textes et qu'elle rappe, et ben elle se prend encore des sales chiennes et des « de toute façon, t'es qu'une pute » et « de toute façon, t'es qu'une meuf ». En fait, t'es une meuf dans le rap, t'es inférieure forcément. Alors moi, pour essayer de répondre à Dominique, ce que je peux dire, c'est que en fait, les enfants, ils sont plus intelligents et conscients que ce qu'on pense. Mais il y a aussi des trucs qui leur passent complètement par-dessus la tête. Je sais pas si tu te rappelles, mais moi, personnellement, quand j'étais petite, je chantais des chansons horribles qui étaient dans le top 50, tu vois, mais je comprenais pas de quoi ça parlait, tu vois. Ouais. Je comprenais pas les allusions et tout. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait que malgré tout, les enfants, ils comprennent et ils sont pas nécessairement... tu vois, c'est pas parce qu'on dit « Ah ouais, les femmes, c'est des putes » que ils vont forcément prendre ça pour argent comptant.
Oui, donc, ils font le tri aussi entre le discours artistique et leur propre pensée.
Exactement. Et alors, ce qu'on peut faire, je pense à Dominique et à sa fille, c'est peut-être contextualiser, en discuter avec sa fille. Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit là dans la chanson? Pourquoi il dit ça d'après toi? Est-ce que t'es d'accord avec ça? Et je pense que ouvrir la conversation et pas laisser l'enfant seul face aux produits de consommation, déjà, c'est un pas aussi. Et sinon, on peut aussi citer des artistes qui sont PG-13, qui sont pour les enfants, donc Soprano, Abdelmalik et Maître Gims. C'est les stars des cours de récré, donc effectivement. Et en fait, voilà, pour moi, la pop culture, il y a toujours les artistes qui sont hyper woke, donc hyper engagés, conscients. Et puis, tu as les artistes super problématiques. Donc, en fait, il faut écouter les deux. Comme ça, tu te fais ta propre petite salade.
Et on peut trouver pas mal de recommandations de rappeuses sur le site de la journaliste Héloïse Bouton qui s'appelle Madame Rap. Voilà, on vous le recommande. Enfin, si vous aimez le rap.
Donc voilà, c'était notre réponse pour Dominique. On adore recevoir des questions féministes. Donc, si vous en avez, vous pouvez nous écrire à hello@quadmeuf.net.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À dans 3 semaines.
À dans 3 semaines.
Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche dans la newsletter Quadmeuf. Abonnez-vous sur quadmeuf.net si ce n'est pas déjà fait.
Et vous pouvez aussi aller sur Apple Podcast et nous laisser une note. 5 étoiles de préférence, ce serait super. On est aussi sur Twitter et Instagram, sur @quadmeuf. Et on se retrouve au prochain épisode.
Bye girl.
Girl, bye. Quadmeuf est une émission de Clémentine Gallo et Mélanie Wanga, produite par Nouvelles Écoutes, avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Maxime Olivier, au montage et au mixage Laurie Galigani.